Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on commencera par des brèves et ensuite...
Lutte contre le dérèglement climatique, l'État dissout le messager.
Ah ouais, c'est bien comme titre.
Vous savez pas de quoi ça va parler.
Il suit bien le mec quand même, ce qu'on a préparé.
Ah, j'étais occupé à préparer autre chose. Darmanin abuse sur les écoutes des militants et militantes écolos. Et c'est pas nous qui le disons, c'est un truc quand même... Tout ce qui est le plus répressif normalement.
Ensuite, on aura des nouvelles de Serge.
Ensuite, Manoukian, pain héros national.
Alors, on dit Manoukian.
On dit bien comme on veut.
Et puis, on ira voir ce qui se passe 20 000 lieues sous les mers.
Ouais. Et ensuite, on aura la rubrique, il faut que ça se sache. Et on continuera ce qui se passe sous les mers, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'objectifs.
Oui, puisque personne ne va voir Titanic.
Ah ouais. Oui. Ah, tu veux dire des objectifs de
non,
caméra télé.
Non, c'était pas ça, c'est parce qu'après, dans le Faut que ça se cherche, on parle de naufrage, mais il y a beaucoup moins de caméras qui vont voir.
Oui, ouais, non, c'est ça, des caméras, ouais, voilà. Des objectifs de caméra. Voilà. Moi, je me disais. Enfin bon.
Voilà.
Alors, Jamais sans toi organisait cet après-midi à Charpennes une manifestation pour réclamer la réquisition des logements parmi les 18 000 réputés vacants dans la métropole. Et ce, pour loger les quelques 10 000 personnes en attente de logement dans cette même métropole. Il demande aussi la régularisation des sans-papiers, c'est une des sources importantes de sans-abrisme à Lyon. Les associations gestionnaires de centres d'hébergement d'urgence ayant un taux de personnes sans-papiers au-dessus de 80%. Elon Musk, qui se présente régulièrement en grand défenseur de la liberté d'expression et qui a racheté Twitter 43 milliards de dollars quand même, soi-disant pour la rétablir, vient d'annoncer que le terme « cisgenre » et « cis » donc qui désigne une personne dont le genre est celui qui lui a été assigné à la naissance, enfin lui, vous voyez quoi, sera désormais considéré comme une insulte sur sa plateforme. Voilà. Le même homme expliquait il y a quelques jours à Anne-Sophie Lapic, manifestement peu convaincue par son raisonnement, que les blagues sur les 600 migrants morts, on va en parler tout à l'heure, la semaine dernière dans le naufrage de leur embarcation, restaient car elles découlaient de sa vision de la liberté d'expression. La blague en question qui était montrée lors de l'interview, c'était quand même un truc qui consistait à, sous un message d'un journal qui annonçait l'événement, mettre « ça fera de la nourriture aux poissons ». Voilà, c'est pour vous dire le niveau du truc.
Ah, c'est les infos maintenant.
On a fini avec
regardez, alors, attendez, hop là, t'as avec une brève.
Ah, je suis content parce que. Pourquoi c'est pas moi qui.
102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Limon Darmanin a annoncé ce matin en Conseil des ministres la dissolution des soulèvements de la terre, alors qu'hier, ses services avaient procédé à au moins 18 arrestations dans une dizaine de lieux à travers la France. Ces perquisitions, dont certaines étaient menées en présence des policiers de la sous-direction antiterroriste, la fameuse DAT, interviendraient dans le cadre d'une enquête suite à une action contre le cimentier Lafarge. Le cimentier Lafarge, si vous ne connaissez pas, c'est sûrement que vous vivez dans une grotte, mais passons. Le cimentier Lafarge, disais-je, qui va payer 790,9, le virgule 9 est important, millions d'euros aux USA suite à un plaidé coupable pour avoir financé un aéropage d'organisation terroriste en Syrie. Le financement pour un montant estimé à 700 millions d'euros entre 2013 et 2014 dans le but de pouvoir maintenir son activité de production en pleine guerre civile syrienne. Le seul État islamique, EI, avait perçu entre 5 et 10 millions d'euros avant de finir par prendre malgré tout le contrôle de l'usine en 2014. Lafarge est aussi poursuivi en France pour complicité de crimes de guerre. Après de nombreux rebondissements, c'est finalement la cour d'appel qui a ordonné les poursuites. Notez qu'il y a quelques explications à ces rebondissements et au malaise du côté français. C'est qu'on apprenait en avril 2003 que les pouvoirs publics, via la DGSI, avaient profité de la situation pour gratter des informations au cimentier, alors que l'ambassade française en Syrie n'existait plus.
Ça ne devait pas être en 2003 quand même.
2023, pardon. Oui, j'ai dit 2003. Ouais, pardon. C'est qu'il y a beaucoup, alors je...
C'est pas grave, les dates, on a déconstruit tout ça.
Ouais, on a tu sais, le temps, c'est un truc qui est relatif.
Ah oui.
Ça dépend à partir de quand on compte. Et moi, je pense que Jésus-Christ, il est né 23 ans avant Jésus-Christ. Non, 20 ans, du coup.
Bon, vas-y, fais ton info.
Tac, avait profité de la situation pour gratter quelques informations. C'est pas la première fois, alors celle-là, je l'ai trouvée un peu après, c'est pas la première fois que Lafarge se fait connaître pour complicité de crimes de guerre. L'entreprise avait été sous contrôle ouvrier entre 1944 et 1947. Vous le voyez venir, le petit point Godwin. L'entreprise avait largement collaboré avec l'occupant allemand, notamment dans la construction du mur de l'Atlantique. Et par ailleurs, certains de ses dirigeants avaient carrément participé au gouvernement de Vichy. Ce qui fait que donc, après guerre, l'État avait dans un premier temps, enfin le CNR plutôt, avait dans un premier temps passé l'entreprise sous contrôle ouvrier, avant que, sans qu'on comprenne trop pourquoi, l'entreprise revienne à la gestion de la famille Lafarge. Enfin, qui n'est pas la famille de Lafarge, mais les gestionnaires. Donc, pour en revenir à nos colos et à notre action chez Lafarge, des militants écologistes s'étaient rendus sur le site de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône, et avaient pété des trucs. Alors, eux, ils disent désarmés parce qu'ils aiment bien jouer aux petits soldats, mais c'est une autre question. En tout cas, un militant interrogé par France Info avait justifié l'action en déclarant « Le site qui a été ciblé... Le site qui a été ciblé est assez symbolique. Il a été mêlé à un des grands scandales de taux de pollution atmosphérique qui dépassait toutes les normes européennes en vigueur grâce à des dérogations. » Et il poursuit « Aujourd'hui, ça devient un des sites modèles de la transition énergétique, mais qui continue à brûler des centaines de milliers de pneus et des déchets toxiques pour pouvoir alimenter ses fours. » L'action n'avait pas été revendiquée par les soulèvements de la Terre, mais il semble que ça n'ait pas empêché le gouvernement de faire le lien.
Non, parce que sans revendiquer les soulèvements de la Terre, ils l'avaient relayé après sur leur site.
Ouais,
ça veut dire que ça s'était passé, comme n'importe quel journal par ailleurs.
Et donc maintenant, ça suffit apparemment. Enfin, vous allez voir, de toute façon, tout suffit. Donc, les arrestations de ce mardi font suite à d'autres arrestations qui avaient eu lieu pour la même affaire lundi 5 juin et qui n'avaient donné lieu à aucune poursuite. En tout cas, j'ai pas trouvé de poursuite. Et donc, ça fait un total dépassant quand même 30 arrestations. Je crois 33 si je... Enfin bon. Et c'est donc dans ce contexte de répression tout azimut que se place la dissolution des soulèvements de la Terre. Alors, cette dissolution avait été initiée suite à la violente répression de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, qui avait fait plus de 200 blessés, dont 40 d'entre eux étaient gravement blessés. Deux d'entre eux ayant passé du temps dans le coma, on en parlera plus tard. Rappelons que pour ce faire, donc pour dissoudre les soulèvements de la Terre... Le gouvernement utilise une logique mise en place dès 1934 pour dissoudre les ligues fascistes qui avaient tenté un coup d'État en 1934. Ces lois de dissolution, donc, qui ont été mises en place une première fois à cette époque, s'étaient très vite retournées contre le mouvement ouvrier, puisque en 1936, de nombreuses ligues fascistes sont dissoutes, mais dès 1937, c'est l'Étoile nord-africaine, une organisation du Maghreb proche du Parti communiste français, qui sera dissoute. L'histoire se répétant toujours deux fois, selon la formule du vieux barbu, les dissolutions qui sont revenues à la mode après 2012 ont dans un premier temps visé des groupes d'extrême droite. Mais c'est à partir de 2016 et de la loi... sur le séparatisme, qu'elles se sont étendues à des organisations islamistes dans un premier temps, puis y compris des organisations de défense des musulmans. Mince, mauvaise page. Et ce, qu'elles soient pour les islamistes, et ce, qu'elles soient en lien avec le terrorisme et la lutte armée ou non. Depuis 2022, on est passé au stade au-dessus avec des tentatives de dissolution d'organisations comme des organisations de soutien à la Palestine. Il y en a eu deux, dont une qui a été annulée. Celle de Palestine vaincra, je ne veux pas dire bêtise.
Ouais.
Un truc comme ça, en tout cas qui a été annulée. Et celle du groupe antifasciste Lyon Environ qui a, elle aussi, été annulée par le Conseil d'État qui jugeait que quand même le gouvernement il abusait un peu là sur les sur ces deux-là.
Le groupe antifasciste Le Environ que vous auditeurs et auditrices connaissez sous le nom de La Gale.
Ah oui, La Gale, oui, pardon. Alors, du coup, j'ai pu lire le décret de dissolution de ce matin. Enfin, j'ai mis du temps. Enfin, j'ai lu cet après-midi le décret de dissolution de ce matin. Ouais, cette chronique est interminable. J'en ai marre de parler et j'en ai encore pour un petit bout de temps. Mais vous allez voir, je fais au plus court. Du coup, sans surprise, parmi les arguments pour justifier la dissolution, on retrouve des éléments sur l'origine du collectif, la ZAD. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pardon. On apprend, dans le donc c'est pas un communiqué, c'est un décret de dissolution, on apprend que les militants du collectif des soulèvements de la Terre chercheraient à diffuser les méthodes de lutte violente de la ZAD. On y retrouve aussi les appels à saboter et la diffusion de techniques de sabotage, et notamment, et souligner le lien idéologique avec le livre « Comment saboter un pipeline » d'Andreas Malm. Alors on suppose que c'était plus facile de faire le lien théorique avec ça qu'avec par exemple Ivan Illich et son bouquin « La convivialité », mais bon, ça marche aussi. Ça fait moins peur, mais ça marche aussi. Là où ça devient encore plus savoureux, c'est que le fait d'appeler les participants aux actions n'est pas le seul argument du décret. On y retrouve aussi l'appel à utiliser des protections contre la violence policière, notamment des casques et des masques à gaz, et aussi des gants d'ailleurs. Et ça, c'est considéré comme incriminant pour les soulèvements de la Terre. Rappelons que le Conseil d'État avait rappelé à l'État que considérer du matériel de protection comme des armes était interdit et que la police ne devait donc plus confisquer ce matériel ni le considérer comme des armes par destination. Cerise pourrie sur le gâteau de caca que constitue ce décret, le fait de signaler aux gens qu'ils ont le droit de garder le silence en garde à vue est un élément à charge contre les soulèvements de la Terre dans le décret
Ils font de la propagande pour la loi française.
Voilà, ils font de la propagande pour le code pénal ou le code de procédure, ou j'en sais rien, je sais pas exactement où ça se trouve cette histoire, mais voilà. Et ça, quand même, c'est intolérable de d'informer les gens sur leurs droits. Attention aux syndicats de la magistrature, faites pas trop les malins, vous êtes les suivants. Pour conclure, pas tout de suite, parce que entre-temps, cet après-midi, après que j'ai écrit tout ça et que j'ai plus le temps de modifier parce que j'avais plus assez de temps, est sorti un article dans Reporter, article qui signale que, et là ça devient cocasse, cette organisation qui est d'éco-terroriste, qui est dissoute pour la menace réelle qu'elle porte en elle de futur terrorisme, on apprend que ça avait été un peu abandonné ces derniers temps, sur donc, cet article de Reporter, parce que, notamment, le gouvernement n'était pas trop sûr des bases légales sur lesquelles il pourrait faire ça. Mais ce qu'on apprend, c'est que la FNSEA, donc la Fédération des gros exploitants agricoles dégueulasses qui puent, s'est pointée face au gouvernement et leur a expliqué que, selon la bonne formule, « Moi, je tiens plus mes gars, si vous les dissolvez pas, ils vont tout péter ». Et apparemment, donc l'article de Reporter nous explique que la FNSEA et ses réseaux ont fait un lobby important en expliquant que si la dissolution des soulèvements de la Terre n'était pas opérée, la FNSEA passerait à l'action violente. Alors moi, je trouve que ça ressemble un tout petit peu à une sorte de définition de qu'est-ce que pourrait être le terrorisme, c'est-à-dire attention, fais comme je te dis ou je te pète la gueule. Mais bon, apparemment.
Surtout quand on dit ça à l'État.
Surtout quand on dit ça à l'État.
C'est moche.
Moi, je trouve dissolution de la FNSEA. Hein, mais bon. Enfin, en tout cas, vous pouvez aller voir l'article.
Bien.
Non, ça n'arrivera pas, parce que pour l'occasion, ils vont vraiment tout faire péter, alors que
parce que la FNSEA, leurs chefs sont millionnaires, mangent chez des ministres tous les jours.
Exactement, donc ils n'ont pas trop ce problème. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller voir l'article sur le site de Reporter, il est pas en payant, je ne sais pas s'ils ont des articles payants d'habitude. En tout cas, là, c'est gratuit, donc allez-y, jetez-vous, c'est marrant. Enfin, c'est cynique, je sais pas. Enfin bon, voilà, pour conclure, parce qu'il faut que je conclue d'une manière ou d'une autre, Amnesty International rappelle, quant à elle, que le droit français en matière de dissolution d'associations ne respecte pas du tout le droit international. Par droit international, on parle d'accords que la France a signés, notamment des accords européens, et qu'elle est donc censée appliquer. Le gouvernement, qui crie au terrorisme pour quelques actions symboliques, pourtant, c'est bien lui qui, avec cette dissolution, s'engage sur cette voie. Le refus du dialogue, dont cette dissolution est un symptôme, ne peut qu'aboutir à la lutte armée. À force de ne répondre que par le mépris et la matraque à une population terrifiée par l'absence de perspective, il obtiendra ce qu'il mérite, la violence. Pour finir vraiment cette fois, un rassemblement devrait avoir lieu. Alors, j'avais mis en ce moment-là même, parce qu'à 14h, quand j'ai écrit le truc, c'était appelé à 19h, mais maintenant, c'est passé à 20h. Et je ne peux pas vous dire où, car comme la semaine dernière...
Il y a
15 jours, pardon. L'info n'était pas encore sortie au moment où je rentrais dans les studios, alors à moins que...
Si on l'a avant les... Avant la fin de cette info, on
peut la communiquer. Tu l'as pas là.
Là, okay. Je la trouve pas, mais voilà.
Alors, pour les gens qui vont certainement aller à ce rendez-vous, parce qu'ils sont certainement amis proches de quelqu'un qui est sur le groupe Signal restreint de 12 membres.
Les vieux cons, là. On arrête.
Autrement, téléphonez-nous pour nous dire.
Sinon, si je pense que vous allez sur le site des soulèvements de la Terre, comme pour le reste.
Non, il n'y était pas quand je suis rentré.
Oui, mais je veux dire, ça vous peut-être le
Il finira par apparaître. Ou peut-être Rebellion le donnera.
La semaine prochaine.
Ou sinon, il faut s'inscrire. Je crois que c'est Union Insurrection qui a fait ça. Voilà, moi j'ai fini, tu peux me mettre un générique.
Canu Info.
Alors, tant qu'on y est sur la répression des écolos, c'est Mediapart qui nous raconte cette histoire. Il y a quelques jours, au moment donc où on était déjà dans l'attente de cette décision du Conseil des ministres d'aujourd'hui à propos des soulèvements de la Terre, voilà ce que nous racontait Mediapart. Le ministère de l'Intérieur est décidément obsédé par cette menace écologiste. Et comme toujours avec ce gouvernement, vachement plus qu'avec ceux des précédents présidents en tout cas, les ministres comme leur grand chef n'ont pas entièrement compris ce truc un peu compliqué de la démocratie parlementaire. Pour eux et elles, l'idée c'est que comme Macron a été élu, tout ce que souhaite la Macronie est légitime, point final, c'est évident, c'est légal, il n'y a pas de problème, puisque les Français ont voté Macron, enfin on vous l'a déjà dit. Le problème, c'est qu'il reste malgré tout quelques institutions dans lesquelles il y a parfois des gens qui croient à cette sombre histoire d'état de droit. Alors, j'en fais pas partie, hein. Je veux dire, ni des institutions, mais ni même des gens qui croient à l'état de droit.
Le coming out.
Mais des fois, quand même, c'est un peu précieux pour nous que ces gens existent parce que ça limite un petit peu les conneries. Bref, pendant l'année 2022... Les flics, mais surtout les services de renseignement, se sont mis à vouloir dépenser une énergie folle, bien plus qu'avant, pour surveiller les militants et militantes écolos. Ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'un de ces dispositifs de surveillance, celui précisément des écoutes, est soumis à l'approbation d'une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je vais en reparler plusieurs fois, mais maintenant je dirais CNTCR. CNCTR. Et cette commission, elle ne dépend pas directement du gouvernement. C'est une commission indépendante, comme on dit dans cette histoire d'état de droit. Et elle vient de sortir son rapport annuel. Rapport dans lequel on découvre que pour l'année 2022, elle a quand même rendu 629 avis négatifs pour des écoutes et que presque toutes ces écoutes concernaient des écolos. D'après l'article de Mediapart, il y a une dispute autour de l'interprétation du point 5C de l'article L811.3 sur la prévention des violences et la loi sur la sécurité intérieure. En résumé, et comme le raconte un spécialiste des techniques de surveillance à Mediapart, le CNCTR mène une bataille sur l'interprétation de ce 5C. L'enjeu du problème est chez Gérald Darmanin, qui en a une doctrine extensive.
Tu aurais pu t'arrêter à l'enjeu du problème et Gérard Darmanin.
Ouais, c'est vrai. Mais quand même, pour le coup, en l'occurrence, pour essayer de capter un peu, en l'occurrence, ce que c'est passé. Parce que là, on ne parle pas d'une femme qui voudrait un appartement, tu vois. C'est une autre sorte de problème. Il y a beaucoup de problèmes avec Darmanin. Là, c'est qu'il a une doctrine extensive, comme il dit poliment, et qui investit politiquement ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit, il y a une loi qui nous permet peut-être un truc, alors on n'a qu'à faire 10 fois ce truc-là. Or, des militants n'ont pas à être surveillés en raison de leurs opinions politiques pour faire de la mauvaise politique. Bon, attention, hein, la CNCTR, c'est pas notre amie. Elle a sans doute accepté un bon nombre de ses écoutes. Mais elle tient quand même à rappeler dans son rapport qu'il s'agit donc pour la CNCTR, et quand ils autorisent des écoutes, il s'agit d'entraver les actions violentes et pas de surveiller une activité militante. Les convictions politiques ou syndicales n'ont pas vocation à être contrôlées, rappelle la CNCTR. Il en va différemment lorsque leur expression bascule vers l'action violente. Donc si les gens, si on a des très bonnes raisons de penser qu'ils vont tout péter, là c'est une chose. Mais si c'est juste parce qu'ils sont militants, après ils font une liste de ceux qui sont pas concernés. Donc certains agissements dits de désobéissance civile, réalisés sans violence et dans le respect de l'action des forces de l'ordre. Et aussi les combats idéologiques, l'expression d'une contestation ou la critique des institutions en place ne représentent pas un caractère répréhensible en eux-mêmes, souligne la commission. Et ça, pour un ministre macroniste, c'est un truc difficile à entendre, hein, que le fait de contester les institutions en place, ça soit pas en soi un crime. Et encore pareil pour les seules velléités proclamées, y compris en termes radicaux, de renverser les institutions en place. Ça veut dire vous pouvez sortir dans la rue et dire vive la révolution et dire il faut foutre le gouvernement par terre, c'est pas répréhensible. Autre point à avoir en tête, la CNCTR ne contrôle que les écoutes. Alors pour le reste, autant vous dire que les caméras cachées que des militants et militantes découvrent parfois en face de leur porte d'entrée ou en face de la porte surtout de leurs locaux de réunion, que les traceurs GPS qu'on peut parfois trouver collés sous leur bagnole...
Et que la police trouve collés sous les bagnoles.
Hein ?
T'as pas suivi cette histoire ?
Non.
Il y a eu panique parce que les policiers ont arrêté des gens fichés S.
Ouais.
Ils trouvent un dispositif bizarre sous la voiture. Panique, garde à vue, machin. Et en fait, c'était un traceur GPS de la DCRI, j'imagine, ou je sais pas qui. Mm-hmm.
Ok, j'avais pas entendu cette histoire. Et surtout, la surveillance informatique. Là, autant dire que personne ne contrôle rien du tout. Ah oui, c'est tout, j'ai fini.
Ah, et ben c'est le moment de s'écouter une petite musique et on va écouter Doll Parts de Hall. Et on va avoir des nouvelles de Serge.
Serge, qui avait été blessé à Sainte-Soline, fait savoir par un communiqué que son état s'est amélioré, bonne nouvelle, et qu'après un mois de coma et 6 semaines en réa, le voilà maintenant dans un service de rééducation. Alors je vous évite tout le communiqué, hein, vous pouvez aller le voir sur le site des camarades du S. Il conclut le communiqué ainsi, faisant preuve de son habituelle détermination. Néanmoins, notre force n'a pas grand-chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c'est notre nombre, notre place dans la société, et le monde meilleur auquel nous aspirons. Contre les quelques organisations de dirigeants et de bureaucrates qui souhaitent nous ramener à la maison une fois leur place au soleil acquise sur notre dos, il nous faut 1000 façons de nous organiser à la base, par et pour des solidarités concrètes, à destination des camarades du mouvement, mais aussi, et peut-être surtout, à toutes celles et ceux qui rejoindront les élans révolutionnaires du futur. Force aux camarades, actuellement dans le viseur de l'État. Vive la révolution.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler romance nationale.
Ou pas. Et ouais, on va grave parler romance nationale, parce que ça y est, Manouchian et Missak et Méline et Manouchian sont rentrés au Panthéon. Alors quoi ? Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous raconter un article que j'ai trouvé sur le site. Les mots sont importants. Je vais le raconter à ma manière. Donc, deux panthéonisés de plus. Cette fois, c'est plus une chanteuse noire avec une ceinture de banane. Dont la participation à la résistance n'était avérée que par une seule source historique qui était ses propres mémoires. Cette fois-ci, il s'agit bien de Missak Emeline Manouchian. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Et c'est même tellement sérieux que les pauvres Manouchian, quand ils vont transporter leur cercueil, il faudra bien tenir les cercueils parce qu'ils vont se retourner dans leur tombe comme des crêpes tout le long du trajet. Faire des Manouchian des héros martyrs de la République et de la patrie, c'est quand même une belle crapulerie. Si nous on avait besoin de héros, les Manouchian pourraient tout à fait être nos héros à nous, exactement pour les mêmes raisons qui font que Macron, que la France, que la République ont vraiment aucune légitimité à mettre leurs sales pattes sur leurs dépouilles. Alors on revient en arrière pour les plus nuls en histoire. Les Manouchian étaient des résistants en France. Attention, j'ai bien pas évité de dire des résistants français et françaises, vu qu'à l'époque c'était ce qu'on appelait des métèques, un mot qui a précédé le mot bougnoule dans la bouche des racistes. En tout cas, Missak n'a jamais été français, mais Méliné ne l'est devenu que après. Leur groupe était un groupe des FTP-MOI, c'est-à-dire les frontières partisans main d'œuvre immigrée. Ça dit bien ce que ça veut dire. Des métèques, quoi. Alors Manouchian, lui, a été pris avec 21 autres membres de son groupe. Il et elle ont été fusillés le 21 février 1944, ce fut une qui a été embarquée en Allemagne pour être guillotinée quelques mois plus tard. Bon, voilà, jusque-là, histoire de résistance, histoire dégueulasse de la part des Allemands, mais histoire de résistance. Et la crapulerie, la partie récupération de la crapulerie commence 12 ans plus tard, sous la plume de Aragon. Aragon qui écrit, alors par ailleurs, un magnifique poème pour leur rendre hommage. Poème que vous connaissez certainement sous sa version chantée par, dans sa version chantée par Léo Ferré, l'affiche rouge, tout ça, c'est très beau. Hein. Mais il écrit ça en 1956, et à ce moment-là, pour des raisons d'anti-impérialisme, c'est un moment où le Parti communiste français brossait dans le sens du poil le nationalisme français. Et Aragon, n'hésitant
décidément,
pas...
Décidément, ils le font même souvent.
Bah, ils le font plus ou moins souvent. Ouais. Je veux dire, régulièrement, ils le font, puis après, ils le font moins, puis après, ils le font plus. On se rappelle quand même que l'idée communiste, au départ, l'idée qui a fondé le Parti communiste, était quand même bien une idée internationaliste. Et d'ailleurs, Missak Manouchian, lui, était communiste, et lui, il était complètement internationaliste. Mais en tout cas, Aragon, donc à ce moment-là, il met sa plume au service de son parti et il préfère flatter cette merde de nationalisme plutôt que de rendre réellement justice à un militant internationaliste. Donc, parce que oui, Missak Manouchian, contrairement à ce que raconte la poésie, n'a certainement pas crié « la France » en s'abattant. Alors en fait, personne ne sait ce qu'il a crié. Hein. Les résistants qui étaient là, bah, ils sont morts. Et les nazis n'ont pas mentionné ce cri dans aucun rapport sur cette exécution. Alors en fait, voilà même ce que dit l'article à ce propos. On ne saura jamais ce qu'ont vraiment dit, crié ou chanté les martyrs du groupe des étrangers, comme on a appelé ce groupe. On sait que dans ce groupe, il y avait l'ouvrier métallurgiste Jean-Pierre Timbaud, qui lui est mort en criant « Vive le Parti communiste allemand !» D'autres ont crié « Vive Staline !» Ah bah c'est une époque. Hein. Beaucoup « Vive la liberté !» Et nous dit Evanian, certains ont bien pu crier « La France !» en s'abattant. Mais s'agissant des étrangers du groupe Manouchian, compte tenu de ce qu'on sait d'eux, de leur engagement, de leur raison d'être, compte tenu des termes mêmes rapportés par Aragon dans la lettre à Mélinée, tout porte à croire que s'ils ont pu chanter l'international, ça serait certainement pas en tant que chanson française, puisque c'est des gens à qui l'idée de pays, l'idée de frontière, l'idée de patrie était non seulement complètement étrangère, mais qui c'était même une idée hostile, quoi. Je veux dire, ils étaient exactement des militants contre ce genre de merde. L'article dont je parle est intitulé « Manouchian n'est pas un héros de romance nationale », si jamais vous le cherchez sur internet, parce que là j'en fais un bref résumé, mais l'article en soi est passionnant.
C'est sur le site lmsi.net.
Ouais, comme LMSI, comme les mots sont importants. L'article se base beaucoup sur cette fameuse dernière lettre qui est en fait ce que Manouchian a écrit et qu'on a gardé, c'est la lettre qu'il a écrite à son épouse. Une lettre très belle, il était très amoureux d'elle, il savait qu'il allait être fusillé, il a écrit cette lettre. Et il s'avère que dans cette lettre qui est longue, qui revient sur beaucoup de choses, qui est non seulement une grande déclaration d'amour, mais qui est aussi une sorte de... Enfin, qui raconte ses motivations, ses engagements à lui, tout ça, bah, ma foi, le mot France ou français n'apparaît pas, sauf une fois. Alors, il parle de paix, il parle de paix entre les peuples, il parle de liberté, tout ça, il en parle. Il parle jamais de la France. À un moment, vous allez voir, à un moment, il dit quand même armée française. Et il se définit comme soldat régulier de l'armée française. Mais il faut voir le contexte. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, parce qu'en 1944, en fait, il sait déjà que les nazis vont perdre la guerre. Au moment où il se fait fusiller, ça revient aussi plusieurs fois dans sa lettre. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de libération. Voilà, on a bien lu, nous dit Evanian qui a écrit l'article. Loin de toute effusion patriotique, de tout sacrifice pour une France adorée, le propos est ici d'assurer un avenir décent à sa future veuve. Si ces mots nous disent quelque chose du rapport de Manouchian à la France, c'est donc plutôt, me semble-t-il, ceci, qu'on a affaire à quelqu'un de pointilleux sur ses droits, sur ce que la France lui doit, bref, quelqu'un qui a cette mentalité revendicative que nos républicanistes patentés, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier, ne cessent de vitupérer. C'est-à-dire que Manouchian, à la fin, il était à la CGT. Et même dans sa lettre, le seul moment où il parle, où il dit le mot français, c'est bien pour une sorte de revendication de droit. Quoi. C'est vraiment une culture de syndicaliste, une culture de CGTiste. Voilà, que nous dit encore. Alors, c'est l'article, il y a plein de choses dedans, je vous le conseille vraiment. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Je vous en relis un dernier petit bout et puis après on passe à autre chose. Comme ses camarades du FTP-MOI, Manouchian était un ouvrier communiste, syndiqué à la CGT, en lutte contre le patronat, et non pas cet arménien industrieux. Alors l'article en question, ça c'est la partie pas passionnante, mais répond à un article de Libé, en fait, c'est un truc que Evanian avait écrit en 2021. Un appel dans Libé pour, à l'époque, pour panthéoniser Manouchian. Et lui, il dit que cet appel, c'est de la merde, puisque il s'agissait de le panthéoniser en tant que héros de la France et de la République. Et donc dans cet article on parlait d'un Arménien ambitieux, et donc Evanian nous dit que de parler de cet Arménien industrieux, de parler de cet Arménien industrieux, c'est un sommet d'impudence, de paternalisme social et d'essentialisme racial, puisque c'est toujours cette idée de l'Arménien, il vient, il ouvre son petit commerce et puis après il devient riche et puis après il a une place à son nom dans le 3ème à Lyon. Loin de la mythologie de la mythologique et condescendante intégration française dans laquelle on veut l'enrôler post-mortem, Missak Manouchian était internationaliste. Il a milité en France avec les siens, sa classe, mais aussi sa communauté. Il a créé la revue Tchank dans sa langue d'origine. Sous l'occupation, il s'était organisé en non-mixité. Sans les Français. Au sein du FTP-MOI, les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée. Bref, tout ce que nos panthéoniseurs d'aujourd'hui vomissent sous le nom de mondialisme, immigrationnisme, gauchisme, communautarisme ou séparatisme. Et ben voilà. Voilà, Manouchian, il est à nous, il n'est pas à eux.
Canu Info. Du mercredi.
Et on part à la recherche du sous-marin.
Après la lutte armée chez les orques la semaine dernière, d'autres nouvelles de la guerre des classes venues de la mer. 5 personnes sont actuellement coincées dans un sous-marin construit par une start-up. Les explorateurs des profondeurs avaient payé 250 000 euros par tête pour monter dans une boîte que j'ose à peine nommer sous-marin. Le type qui avait vendu les billets avait sûrement partagé mon avis, puisqu'il avait fait signer une décharge pour dire que si un problème survenait, c'était pas de sa faute à lui.
Est-ce que dans ton billet, t'évoques le montant du billet ?
250 000, je l'ai déjà dit.
Ah, pardon.
Hein. Ouais, 250 000 euros. Bah ouais, faut. Bah alors, décidément, aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, c'est dommage, c'est une nouvelle qui n'est pas très radiophonique, parce qu'il faudrait que vous voyiez la gueule de ce sous-marin tout petit où ils sont assis, il n'y a pas de siège, il y a une bouteille pour faire pipi au milieu. Le truc pour diriger, c'est une manette de. Alors, c'est une manette Logitech, en plus, il paraît qu'elle tombe en panne tout le temps, ces manettes, parce que c'est la catastrophe. Enfin, bon, voilà, faut aller voir, taper sur Internet, je crois qu'il s'appelle le Titan. Vous verrez à quel point des gens qui ont accepté de monter là-dedans méritent leur Darwin Award. Le Darwin Award étant un prix qui est décerné tous les ans aux morts les plus cons de l'année. Et ben, s'ils meurent, clairement, je serais pour qu'on les propose.
Sachant qu'il y a quand même qu'il y a un Français, parce que, tu vois, dans le dedans, et que le Français était quand même dans la Marine nationale et dans les sous-marins de la Marine nationale. Voilà, c'est pour dire.
Voilà, pour vous dire. Et donc, il y avait un Français qui apparemment est un grand spécialiste du Titanic. Et sinon, il y a un milliardaire britannique.
Oui, parce que t'as dit ça, ce qu'ils allaient foutre sous l'eau.
Ah oui, non, j'ai pas encore dit. Oui, ils allaient visiter l'épave du Titanic. Mais en plus, c'est encore plus drôle parce qu'ils vont visiter l'épave du Titanic. Apparemment, tu vois rien. Donc, du coup, il y a des caméras pour pouvoir voir. Donc, en fait, ils vont voir les images qu'on a tous vues au début de Titanic. En tout cas, tous les gens qui étaient nés à la sortie de Titanic et donc qui l'ont forcément vu, puisque à peu près la moitié, enfin l'intégralité de la planète l'a vu.
12 ans plus tard.
Voire. Oui, non, mais toi, c'est différent. Enfin, tu.
Et voilà. Bon, passe.
Voilà, on fera pas de commentaires. voilà, bon, pour vous dire, enfin, en tout cas, allez voir, vous allez comprendre à quel point c'est une idée saugrenue de s'être embarqué là-dedans pour aller rendre visite à une épave qui est quand même à plusieurs milliers de mètres sous le fond. Évidemment, comme il s'agit de millionnaires et que c'est pas. Dans la rubrique d'après, faut que ça se sache. Et ben à la fin, la marine de trois pays, enfin à la fin aujourd'hui, là aujourd'hui même, la marine de trois pays est mobilisée. Enfin, les marines de trois pays sont mobilisées. Et donc, ce ne sont pas moins que six avions américains, deux avions canadiens et 10 navires battant pavillon français, anglais, canadien. Il y a quelque chose comme la Barbade ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Enfin, bon, c'était improbable. Qui sont en train de chercher dans la zone les 5 naufragés. Nous leur souhaitons un prompt sauvetage et une forme de sagesse quand même.
Est-ce qu'il paraît, on entend comme ça en ce moment.
Ouais, apparemment toutes les 30 minutes il y a des petits coups. Ah. C'est longuement commenté. Non, franchement, vous avez tout le feuilleton sur le site du Monde en live. C'est merveilleux.
Netflix est en train de racheter les droits pour faire une série.
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Et oui, ben, j'ai cherché une blague à faire sur le nombre de moyens débloqués. Non, ben là, rien à voir. Le nombre d'articles dans les médias aussi. Ici, on en avait un peu parlé quand même la semaine dernière. Là, beaucoup, beaucoup moins. On parle bien sûr du naufrage qui a eu lieu au large des côtes grecques la semaine dernière. Et si le bilan est passé à 81 personnes noyées, on sait qu'entre 400 et 750 personnes se trouvaient à bord et seules 104 personnes ont pu être secourues. On vous laisse faire la soustraction. Nous arrêtons là le macabre décombre. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un, si ce n'est le pire naufrage d'exilés en nombre de victimes dans la Méditerranée. Ces derniers jours, c'est la version des gardes-côtes qui a plusieurs fois été remis en question, les obligeant même à rétro-pédaler. Les autorités grecques ont affirmé plusieurs choses dans leur déclaration. La première était que le chalutier était un danger n'était pas en danger imminent et faisait route vers l'Italie. Les deux informations sont importantes, c'est-à-dire pas de danger imminent et qu'il faisait route, ce qui sous-entendait donc qu'il était en mouvement. Le communiqué officiel précise à 15h35, je le cite, le navire de pêche a été repéré par l'hélicoptère de la garde côtière grecque, naviguant à vitesse régulière. Navire repéré à 11h et suivi à distance, deuxième information importante, par les gardes-côtes grecques. Et pour se justifier de ne pas être intervenu, les autorités affirment tout au long de la journée du naufrage que le bateau naviguait à vitesse régulière et que les exilés ont refusé toute aide. Le 19 juin, dans un autre communiqué, le gouvernement affirme de nouveau que le bateau a parcouru 44 km entre le moment où il est repéré et l'endroit où il fait naufrage. Or, d'après une enquête de la BBC, qui s'est appuyée sur les coordonnées GPS d'autres navires présents sur la zone, il arrive à la conclusion que le bateau était immobile de 18h à 21h. À 18h, un premier chalutier s'approche du navire pour lui fournir des vivres et de l'eau, et un second à 21h pour exactement les mêmes, pour la même chose, pour lui donner à boire et à manger. Les coordonnées GPS de ces deux navires ont ravitaillé le bateau au même point GPS. Donc on sait qu'entre 18h et 21h, il n'a pas bougé. Ce qui vient en contradiction avec le dernier communiqué qui parle effectivement des deux ravitaillements, parce qu'on pourrait se dire, bon, il n'a pas bougé de 18h à 21h, mais hop, à 21h, hop, il se met au vent. Non, déjà, le dernier communiqué parle effectivement de ces deux ravitaillements, mais à chaque fois, les gardes-côtes déclarent que le navire s'arrête et redémarre pour continuer sa route, version donc contredit, par les relevés GPS. Autre zone d'ombre, des exilés accusent les gardes-côtes de les avoir remorqués vers le large avec une corde. Plusieurs naufragés donc affirment que le bateau a chaviré au moment où les gardes-côtes remorquaient le navire avec une corde afin de les éloigner de la côte. Donc pour réaliser ce que les gardes-côtes grecs sont régulièrement accusés de ça, pour effectuer un pushback. Cette version est relayée par le représentant du HCR en Méditerranée occidentale et centrale, par le média grec News 24/7 et par le parti de gauche Syriza. Un rescapé syrien de 24 ans témoigne, je le cite, « Les gardes-côtes ont attaché leur bateau avec une corde et ont essayé de le remorquer vers la gauche, pour une raison inconnue, le bateau a viré vers la droite et a soudainement coulé. » Fin de la citation. L'utilisation d'une corde ou d'un remorquage n'a jamais été mentionnée par Athènes. Au contraire, il a plusieurs fois été précisé que le navire des gardes-côtes surveillait à distance. Je l'ai dit juste avant, mais ils l'ont répété quand même plusieurs fois, ce « à distance », avec un contact régulier par téléphone satellite. Or, le vendredi 16 juin, les autorités ont légèrement modifié leur version et parlent cette fois-ci d'une corde. Tiens, le porte-parole des gardes-côtes grecs déclare que quelques heures avant le naufrage, les gardes-côtes ont, je le cite, utilisé une corde pour se stabiliser, pour s'approcher, pour voir, je le cite, si les passagers voulaient de l'aide. Et on sait à quel point les gardes-côtes sont soucieux du sort des migrants. Précisant qu'il n'y a bien sûr eu aucune tentative d'amarrage du bateau, tout en déclarant que les migrants ont déclaré « pas d'aide, on va en Italie » et ils ont continué leur chemin. Comme le navire n'avait pas demandé d'aide, nous ne pouvions donc pas intervenir. C'est bien ce que c'est bien connu, les gardes-côtes grecs interviennent exclusivement quand les personnes ont besoin d'aide et qu'ils les sollicitent. En parlant de cette corde, les autorités avouent donc à minima, c'est-à-dire que même dans leur version, même dans cette version-là, ils avouent donc s'être approchés bien plus près de ce qu'ils prétendaient jusqu'à maintenant. Ce qui est une manœuvre déjà extrêmement dangereuse, manœuvre qu'aucune ONG de sauvetage présente n'effectue. L'approche des navires en détresse se fait toujours par petits bateaux type Zodiac, pour ne pas créer de mouvement de panique, puisqu'on sait le moindre mouvement de foule peut faire chavirer un bateau, et que si vous avez vu la photo du bateau en question qui était vraiment plein à ras-bord, on imagine que si ne serait-ce que la moitié des personnes se dirigent d'un côté pour être sauvées en premier, le bateau coule. Mais tout ça, bien évidemment, les gardes-côtes le savent parfaitement, et s'ils ont essayé de passer ça sous silence, c'est qu'ils ont bien conscience qu'à minima, ils sont responsables d'une manœuvre dangereuse ayant entraîné la mort de personnes. Mais si cette histoire de remorquage est avérée, leur responsabilité serait bien plus grave.
Alors, leur responsabilité morale, certainement, leur responsabilité pénale, ça reste encore à voir. En tout cas, si ça se passait en France, ma foi, on ne sait pas exactement ce qui leur arriverait, mais le monde nous révèle aujourd'hui que à propos d'un autre naufrage, un naufrage qui avait eu lieu en novembre 2021. Bon, on en avait parlé ici, moi je m'en souviens un peu, dans la Manche. C'est le moment où il y avait un bateau de migrants qui traversait la Manche. Le bateau s'était retrouvé en détresse un petit peu au milieu. Et à ce moment-là, ils avaient téléphoné en disant qu'ils étaient en détresse, téléphoné au secours. Et là, les secours français leur avaient dit « Oh ben nous, vous êtes déjà en Angleterre, appelez les Anglais ». Ils avaient téléphoné aux Anglais qui avaient dit « Ah ben non, vous êtes encore en France, appelez les Français ». Et ces conversations téléphoniques ont été dévoilées quelques temps plus tard par le journal Le Monde. Conversations dans lesquelles on entend non seulement que les deux pays, enfin les services de secours des deux pays se renvoient la balle, mais on entend aussi que après hors ligne, ils se moquent vraiment des. Enfin, je veux dire, c'est la franche rigolade de savoir que ce bateau est en détresse. Tout ça s'était soldé par 27 personnes noyées. Or, juste après, le secrétaire d'État à la mer, qui était à l'époque Hervé Berville, alors, est-ce que c'était juste après le naufrage ? Non, pas du tout. C'était juste après les révélations du Monde. Il avait réagi en disant « Toute la lumière devra être faite sur la manière dont s'étaient déroulés ces appels téléphoniques entre les passagers de ce bateau et les secours. La lumière devra être faite, en particulier avec les militaires du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Maritime, le CROSS. » Le CROSS, d'un endroit qui s'appelle Grinet, c'est dans le Pas-de-Calais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a militaire, du coup. Le CROSS, c'est un truc de l'armée. En tout cas, le CROSS n'a jamais envoyé de secours vers ce bateau. Alors même que, par ailleurs, un patrouilleur de l'État, qui s'appelle Le Flamand, se trouvait pas loin du tout. Bon, selon les informations du Monde, ce patrouilleur... Pardon... non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est que toute cette lumière qui devrait être faite. Et alors, de là devait s'en suivre en réalité deux enquêtes. Une enquête au pénal, où là, pour le coup, c'est la justice française qui se démerde pour voir s'il y a non-assistance à personne en danger. Et cette enquête-là, c'est un truc qui existe réellement, qui a réellement été mis en place. Mais par ailleurs, il devait y avoir une enquête administrative. L'enquête interne, comme on dit, celle qui avait été promise par le gouvernement au moment des révélations du Monde, et qui éventuellement peut aller plus vite que l'enquête pénale, et qui éventuellement peut déterminer que même si certaines fautes pénalement répréhensibles, merci, elles sont quand même assez graves pour être des fautes de service, quoi. Je veux dire, si les gens, peut-être qu'on va pas les mettre en prison parce qu'ils ont merdé sur ce coup-là, mais s'ils ont assez merdé, ils peuvent quand même être sanctionnés dans le cadre du boulot. Bon, bah en fait, cette enquête n'a pas eu lieu. Et vous allez voir, non seulement elle n'a pas eu lieu, mais c'est même encore pire que ça. En tout cas, l'enquête judiciaire, elle, donc c'est-à-dire l'enquête pénale, elle a conduit à la mise en examen de 5 militaires du CROSS, ainsi que de 2 membres d'équipage du Flamand, pour non-assistance à personne en danger. Et alors là, maintenant que le Monde se rend compte que cette enquête interne, a priori, n'a pas tellement existé, le Monde a essayé de joindre un petit peu les différentes instances qui pourraient en être responsables. Et là, ma foi, tout le monde a juste refusé de leur répondre. Le secrétariat général à la mer MER, enfin à la flotte, quoi, qui est un truc qui dépend de l'autorité de la Première ministre, ainsi que le cabinet du secrétaire d'État, se retranchent derrière l'enquête judiciaire en cours pour ne pas répondre. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord précise que tous les opérateurs du CROSS actuellement affectés à Grinet ont toute la confiance du préfet maritime. Tu m'étonnes, ça dépend juste ce qu'on imagine que le préfet se fixe comme but en cas de bateau de migrants en perdition. Alors du coup, quoi d'autre ? C'est ça, c'est dans leur conclusion remise à la juge d'instruction récemment, les enquêteurs notent que, a priori, l'existence de cette enquête interne, l'enquête administrative, n'a pas été démontrée. Et ils s'appuient pour ça sur leurs échanges avec l'administration et les réponses des militaires, les militaires qui ont été mis en cause. Et donc une opératrice du CROSS qui, elle, a été placée en garde à vue en mai, dit pendant sa garde à vue « Pour moi, la seule enquête, c'est la vôtre, donc uniquement l'enquête pénale ». Relancé sur l'absence d'enquête administrative, le cabinet du secrétaire de l'État a finalement précisé au Monde sa réponse les propos du ministre à l'Assemblée nationale, une enquête interne qui a été menée en 2021 à la suite de l'événement. Cette enquête a existé, mais juste entre-temps, il n'y a pas d'annonce d'éléments nouveaux, dit-il. Le problème, c'est qu'à ce jour, l'unique document administratif qui a été produit à la suite de ce naufrage, c'est un rapport. Un rapport du directeur du Cross Greenet, qui a été remis en mars 2022 au préfet maritime. Et dans c'est ce qui s'appelle un retour d'expérience. Hein, du coup, il ne s'agit pas du tout d'une enquête interne, il s'agit d'un retour d'expérience. Le responsable affirme que toutes les opérations du 24 novembre 2021 ont été traitées conformément aux procédures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conformément aux procédures ? Eh bien, ma foi, il semble que ça veut dire que, puisque ce n'était pas des Français, ce n'était pas des Anglais qui étaient dans le bateau, ma foi, la procédure semble être que c'est pas la peine de se déplacer, quoi, ou de faire bouger un petit peu un navire qui, par ailleurs, est déjà juste à côté. Ils disent aussi qu'il est inexact d'affirmer que les services de sauvetage français et britanniques n'ont rien fait et se sont renvoyés la balle. Mais alors figurez-vous que c'est encore pire que ça, c'est que du coup, dans le mois qui a suivi, le secrétaire général à la mer, qui n'était autre que Didier Lallemand, s'est affiché sur Twitter avec les secouristes du Cross pour leur affirmer son plein soutien. Ces marques de confiance ont pu étonner jusque dans les rangs des militaires, puisque... En fait, tout va encore pire que ça. Les marques de confiance ont été apportées par le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord à l'époque à ces gens du Cross. Et il y en a un qui est aujourd'hui mis en examen. Mais... attendez que je ne confonde pas. C'en a un autre qui est pas mis en examen, mais qui fait partie du Cross et qui dit que... En parlant du préfet maritime, donc, qui dépend directement du gouvernement, il a osé nous remettre une lettre de félicitations pour cette journée du 24 novembre 2021. Lui, il est quand même un peu, je pense, il n'est pas très fier de ce qu'il a fait ce jour-là. Et il expliqua, et il ajoute, honnêtement, on n'a pas compris, on aurait préféré qu'il nous envoie des moyens. Et l'officier de permanence la nuit du naufrage, qui lui est aujourd'hui mis en examen, lui, il ne s'explique pas non plus pourquoi est-ce qu'il a eu une promotion au grade de capitaine de corvette dont il a bénéficié le 1er février dernier. Je ne sais pas du tout pour quelle raison elle est intervenue, explique-t-il aux enquêteurs. C'est-à-dire que ces gens qui, a priori, quand ils ont eu un appel en détresse, ayant compris que c'était qu'il s'agissait d'étrangers et de clandestins, les ont plus ou moins envoyés se faire foutre et laissés se noyer. Aujourd'hui, ils sont promus. Ça ressemble aussi à ces promotions qu'il y a dans la police, qu'il y a eu énormément dans la police ces trois dernières années pour des flics qui sont responsables à plus ou moins un niveau hiérarchique de violences policières graves.
Et on espère que d'autres enquêtes auront lieu, et cette fois-ci plutôt du côté des journalistes, parce qu'on rappelle, donc pour revenir pour la Grèce, que depuis des années, bien sûr, les gardes-côtes grecs sont accusés de refoulements illégaux et violents en mer Égée, avec une solide enquête, enfin avec plusieurs preuves de ces accusations, et dont une solide enquête menée en février 2022 de Lighthouse Reports. On en parle quand même souvent, ils enquêtent quand même beaucoup sur les naufrages et sur ce qui se passe en Méditerranée. On imagine qu'ils sont sur le coup de ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, en tout cas, ils ont retracé le parcours de deux corps retrouvés sur les côtes turques, et ils avaient conclu dans leur enquête qu'il s'agissait d'une nouvelle tactique des gardes-côtes grecs qui consiste, je les cite, à jeter des petits groupes de demandeurs d'asile par-dessus bord et les faire nager jusqu'en Turquie. Donc, si enquête il doit y avoir, on espère qu'il sera de ce côté-là.
Ça.
Et c'était aussi pour continuer du côté de la Grèce, ou quand même de Athènes à Thessalonique. Plusieurs manifestations ont eu lieu le jeudi soir après le naufrage, en solidarité avec les rescapés, pour dénoncer la politique anti-immigration du gouvernement grec et de l'Europe. Et on revient en France avec Darmanin, qui a déclaré apporter une aide bilatérale de 25,8 millions d'euros pour équiper, former policiers et gardes-côtes tunisiens. Alors, quand on dit une aide bilatérale, ça veut dire on vous file du pognon et en échange, vous matraquez tous ceux qui veulent fuir de vos côtes pour venir chez nous, afin de leur apporter, bien sûr, notre savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. Tiens, cette annonce est quand même tombée pile poil la veille de la rencontre entre Macron et la néo-fasciste Mélanie, rencontre qui arrive après un léger froid diplomatique et qui s'est donc réchauffé sur le dos des réfugiés.
Que ça se sache.
Eh bien, on finit en Italie et c'est le naufrage, le navire humanitaire de Sea Watch qui a écopé de 3333 euros d'amende et d'une immobilisation de 20 jours imposée par le gouvernement italien. Mardi 13 juin, il avait débarqué 39 migrants au port de Lampedusa, désobéissant aux autorités italiennes qui lui demandaient de poursuivre sa route jusqu'à Trapani en Sicile. Le bateau avait refusé ça parce que le port devait leur faire 32 heures de route et le navire n'était pas du tout équipé, on en avait parlé la semaine dernière, pas du tout équipé pour se taper ces 32 heures supplémentaires juste pour faire chier le bateau en gros. Donc ils ont décidé de pas faire ça et voilà, donc ils ont été punis hein, de ces 20 jours d'immobilisation quand même et de ces 3000 et quelques euros. Donc si vous avez de la thune à lâcher, je pense que Sea Watch n'est pas contre un petit coup de pouce, parce que on imagine quand même assez facilement que ça va leur arriver assez souvent sur leur navire, enfin que ce soit eux ou les autres navires humanitaires, mais comme ces nouveaux décrets ont l'air de pleuvoir.
Pour rappel, le nouveau décret, le principe, c'est que tu dois aller là où le gouvernement italien te dit d'aller, au lieu d'aller au port le plus proche.
C'est ça.
Et t'as pas c'est le droit leur nouvelle technique pour faire chier les bateaux de migrants, parce que comme la dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, ils se sont tout fait casser ce qu'ils avaient fait, ils ont décidé de faire des trucs un peu plus
subtil.
Vicieux et subtil que juste empêcher les gens de sauver des gens, parce que ça passait pas.
C'est ça, en gros maintenant, on l'a déjà dit, mais c'est le nouveau décret leur interdit de procéder à deux sauvetages à la fois, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sauvent une embarcation, ils doivent rentrer sur un port, et c'est un port qui est effectivement décrété par les autorités italiennes. Et bien, on a fini pour moi.
J'ai fini par trouver.
Ah bah vas-y, balance.
Du coup, la contrefaite de la musique, qui était aussi à la base apparemment en mémoire ou en soutien ou de Steve Maya Canisso, là, qui était mort à Nantes, poussé par la police dans l'eau. Enfin, en tout cas, les deux événements sont produits de manière très rapprochée, étrangement. Et donc, ça a lieu place de la République, dans le deuxième arrondissement.
Voilà,
à 20h.
Et ben allez-y, courez, il vous reste 2 minutes, mais ça risque peut-être de durer un petit peu. Et bien, merci de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et vous n'aurez pas, a priori, idée d'or, parce qu'on ne les voit pas derrière le bocal. Donc, vous aurez les bandes continues. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Ciao.
Radio Canu. C'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.